Salut tout le monde, c'est Enzo, ravi de retrouver le studio de Radio Phoenix pour Pleine Balle. C'est parti pour une heure de discussion autour de la balle jaune. La saison de terre battue a officiellement démarré sur les circuits ATP et WTA avec déjà un Masters 1000. Et quel Masters 1000? Bien sûr, on prendra la direction du Rocher pour parler du tournoi de Monte Carlo qui se termine ce dimanche. On prendra également des nouvelles de l'équipe de France féminine en Billie Jean King Cup pour les grands débuts d'Alizé Cornet en tant que capitaine des Bleus. Et on aura également un mot pour les anciens du circuit, ce sera une nouvelle fois la rubrique retraite avec un feuilleton qui a fait réagir certains dans la rédaction. La page Normandie sera elle aussi très bien fournie aujourd'hui avec un mot de la startlist du WTA 250 de Rouen qui débute ce lundi. Et on va parler aussi dans quelques instants de l'Open de Caen. On est largement en avance puisqu'il se déroulera du 13 au 16 décembre prochain. Mais ce soir, on va se plonger dans les coulisses de l'événement avec Arnaud Guimard, le chef d'orchestre du tournoi qui fête ses 20 ans cette année. Installez-vous donc confortablement pour déguster une heure de tennis, Pleine Balle épisode 48. C'est parti!
On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise.
Et là, j'étais vraiment sur un nuage pendant 3 jours.
That's good stuff. All out of tech from Federer. Et en studio, ce soir, un casting restreint, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, Pleine Balle n'a pas fait son grand ménage de printemps, mais Pleine Balle se heurte aux agendas ministériels de la plupart de ses membres. Alors, les absences sont multiples ce soir, mais pas de panique, elles sont bel et bien justifiées. La bise, tout d'abord à Simon, qui a trouvé un travail. Et oui, bah oui, quand même, quel motif d'absence, finalement, on ne peut lui en vouloir. Deuxième absent du soir, bah, c'est Richard. Mais il ne nous a pas totalement délaissé, puisque nous le retrouverons tout à l'heure pour une petite pastille dont il a le secret. Et si les absents ont toujours tort, saluons celles et ceux qui sont avec nous. Ce soir, elle retrouve le studio, elle aussi après une petite période de disette.
Et oui.
De disette, pardon. C'est la fan numéro 1 d'Iga Swiatek, de Casper Ruud, de Paola Badosa, de Jack... Bref, fan de tennis. C'est Marine. Comment ça va?
Ça va très très bien.
Tu as couru pour venir?
J'ai un peu couru, ouais. Les trams n'étaient pas avec moi aujourd'hui.
Tu reprends ton souffle là en rentrant
bon,
au studio.
C'est bon, fortement, j'ai un bon cardio. Il est travaillé à l'entraînement, donc tout va bien.
Cardio digne de la joueuse de tennis que tu es.
Bien évidemment.
On salue évidemment Emile. C'est grâce à lui que vous pouvez profiter de nos superbes jingles et de ce petit bed là que vous entendez en fond. Sans lui, nous ne serions rien. Donc salut Emile et merci encore d'être là ce soir avec nous. Et donc, pour commencer cette émission, je le disais il y a quelques instants, nous allons rester en Normandie pour parler de l'Open de Caen. Rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous n'avez rien raté, l'événement n'a pas avancé dans le calendrier, mais il n'est jamais trop tôt pour faire monter la hype, franchement.
Bah oui, hein, quand même.
Et nous avons le plaisir de recevoir à nouveau un invité de marque dans l'émission, Arnaud Guimard, manager général de l'Open de Caen. Bonjour Arnaud.
Bonjour Enzo.
Merci d'être avec nous ce soir. Pour une deuxième fois, on t'avait déjà reçu dans l'émission en novembre 2024, donc à quelques jours du début de l'Open, hein, à l'époque. Là, on est beaucoup plus en amont de l'événement et ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur la construction d'un tel rendez-vous très attendu chaque année et qui fête cette année un cap symbolique. C'est 20 ans, ce n'est pas rien. Juste avant de revenir sur les 20 ans là, donc, qui arrivent en décembre, on va faire un petit flashback de l'édition 2025, la 19e édition donc. Donc ça fait quelques mois là maintenant, et ça s'était terminé sur la victoire de Quentin Alice, ouais. On s'en rappelle. Très très belle édition aussi, cette 19e.
C'était une belle édition, on était contents parce que Quentin Alice c'est un joueur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui n'était pas prévu à la base,
oui,
qui a remplacé Benjamin Bonzi.
Tout à fait.
Et qui a joué l'acier sur ses matchs, donc on était ravis pour lui. En plus il revenait un peu de blessure. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout son discours d'après-tournoi où il était hyper touché. On avait l'impression qu'il avait gagné un ATP 500. Il était hyper émouvant et tu sentais vraiment à quel point le haut niveau était très dur. Et voilà, c'était tout le mérite lui revient d'avoir su tirer son épingle du jeu alors qu'il n'était même pas prévu sur le programme à la base et d'avoir déjoué tous les pronostics.
Oui, et puis il était sorti vainqueur d'un joli tableau. Il y avait eu Sonego, il y avait eu Davidovich-Fokina,
ouais,
de son côté.
Il n'a pas eu la branche la plus facile non plus.
Avant de vaincre donc Hugo Gaston en finale, une finale 100% française aussi, ouais. C'était une petite série sur le gâteau finalement pour la.
Ouais, c'était surtout, on va pas se le cacher, on s'y attendait pas forcément.
Imprévu.
voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est pas l'affiche qu'on imaginait, parce que peut-être que c'est pas l'affiche qu'on espérait, mais c'est clairement sûr. Pas l'affiche qu'on imaginait. Et voilà, les deux joueurs, que ce soit Hugo Gaston ou Quentin Alice, ils ont joué le jeu, ils ont été au niveau où on les attendait, contrairement à un autre.
Dont on taira le nom.
On peut en parler, c'est pas un problème. Mais effectivement, on était content de les avoir à ce niveau-là, surtout en Quentin Alice qui nous a vraiment fait plaisir.
Ouais, non, c'était une belle finale en plus, c'était bien disputé et tout. Ouais.
Un poil court.
Ouais, le premier set, rappelle-toi le premier set qui était quand même extrêmement rapide. Mais en même temps, il y avait une belle raison aussi pourquoi le premier set était extrêmement rapide. Il y avait un joueur qui planait vraiment sur le court, Quentin Alice. Je reviens, bon, tu tendais la perche. Après, voilà, on l'a dit aussi, ce sont les aléas de ce type de tournoi, de ce type d'événement.
J'ai même envie de dire qu'on a aussi des joueurs qui ne jouent pas sur des matchs officiels. Enfin, quoi dire, ATP, WTA, ça peut arriver.
Bien sûr.
Donc là, effectivement, pour parler de Musetti, parce qu'on va en parler maintenant, après ce
on
sera fait.
Très bien.
Non, on était bien sûr hyper déçus quand vous annoncez un joueur comme Musetti, quand vous êtes passionné de tennis comme nous, quoi, qui travaillons à l'année sur l'événement, on voulait faire plaisir à tout le public, aux 4000 personnes présentes.
Incroyable.
Donc on était dégoûtés. On n'a pas bien compris en plus pourquoi il a pas joué. Parce qu'il faut dire les choses.
Oui, il a pas joué.
Telles qu'elles sont, hein, on va pas se voler la face. Ouais. Autant on peut faire tout ce qu'on peut en dehors du cours, annoncer un plateau de dingue et faire venir des joueurs exceptionnels. On n'est pas sur le cours. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En plus, il joue Hugo Gaston, qui est un joueur avec lequel il a déjà joué en double en Grand Chelem.
Oui,
donc ils se connaissent bien.
Ils se connaissent, ouais.
Il sait que Hugo Gaston, c'est un joueur, quand il joue, c'est le couteau entre les dents et que c'est la gagne à tout prix. Surtout quand il y a 4000 personnes devant lui. Donc voilà, bon, on n'a pas compris. On a eu des échanges après avec le joueur, avec l'agent. Je n'entrerai pas trop dans les détails. Mais on n'en est pas resté là.
Ouais.
On n'en est pas resté là. On a obtenu une gain de cause, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le reverra pas forcément à l'Open de Caen. Mais voilà, je nuance aussi quand même parce que oui, il n'a pas joué. C'est un joueur sur. En 19 ans d'existence, je me suis amusé à faire le compte, c'était très rapide. On a 4 joueurs à composer problème comme ça sur 19 ans, sur 19 années. Donc c'est vraiment pas significatif, c'est vraiment pas représentatif de ce qu'est l'événement. Quand ça arrive, ça fait mal, surtout un joueur comme celui-ci, mais encore une fois, c'est pas représentatif et ça n'empêche pas, ça n'enlève en rien la qualité de jeu de Quentin Alice et Gaston sur le reste du tournoi.
Ouais, c'est clair, c'est vrai que tu viens de l'expliquer, ça c'est quelque chose que vous pouvez absolument pas anticiper malgré le pédigré du joueur. Et c'est vrai que même nous on était les premiers stupéfaits de ce qui s'était passé à ce moment-là, en tribune ou au poste de commentaire où nous étions pendant l'Open, on comprenait pas vraiment en fait ce qui passait, s'il y avait un problème physique. Au début on pensait que c'était un problème physique, et après c'est vrai que le fil du match avançant, on se demandait vraiment ce qui se passait.
On voit le premier set assez facile pour Gaston, on se dit bon, il va remonter, c'est les aléas du tennis et tout, et puis en fait le deuxième set de la même manière. Donc
ouais, comme tu dis Marine, on pensait vraiment qu'il n'avait pas rentré dedans et qu'il allait se mettre en jambe.
Il est classique un peu.
Il n'est jamais rentré dedans, et puis Gaston ne l'a pas laissé respirer non plus.
Il a
laissé vraiment aucune possibilité de rentrer dans le match, quoi. Clairement.
Oui, mais non, ça n'enlève rien à la prestation d'Hugo Gaston de toute façon. Il était très solide, et puis ça reste dur quand même de jouer contre un adversaire qui visiblement n'est pas vraiment là sur le terrain. Il faut pas s'endormir.
On n'a pas les éléments de réponse parce qu'on a un petit peu discuté avec lui, après avec son agent, etc. On a continué les discussions même après l'événement. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi, ce qui s'est passé dans sa tête. Après, voilà, est-ce que lui pensait que c'était un match exhibition qui venait un peu la fleur au fusil, que ça allait être tranquille? Il a vu que non. effectivement, on n'arrive pas trop. Parce qu'après, en plus, comme c'était un Français contre un étranger, le public, entre Musetti qui joue pas et que Gaston qui se déchire sur le coup, forcément, le public a pris parti pour Hugo Gaston. Est-ce que ça ne l'a pas enfoncé davantage pour rentrer dedans? C'est pas une excuse. Il voit ça sur tous les tournois du monde.
C'est encore pire à Roland Garros.
C'est
absolument pas la prestance de l'Open de Caen.
Essayer de comprendre, ça ne veut pas dire l'excuser.
Non, c'est clair.
Mais c'est comme ça.
Qui plus est, en plus avec Gaston, qui est en plus un joueur qui peut facilement attirer le public pour lui à sa cause avec son jeu spectaculaire, etc. Marine, je te tends la perche. Je pense que tu as des petites questions à poser à notre invité du soir.
Est-ce que j'ai des petites questions? Déjà, t'as regardé ma finale amateur?
Une bonne partie.
C'était bien.
Mais pas tout.
Non, déjà, l'expérience était folle. Vraiment, merci beaucoup. Je vais parler pour tous les amateurs qui ont la chance de fouler le palais du sport de l'Open de Caen. Mais vraiment, c'est une chance incroyable. Donc vraiment, merci beaucoup. Et moi j'en garde un souvenir fou, quoi. C'était... Enfin, j'ai envie de recommencer, en fait.
Non, mais ça, ça fait vraiment plaisir, parce que ce que tu imagines, parce que pour nous, c'est hyper important, en fait.
Ouais.
Ça fait vraiment partie des valeurs de l'événement. Ça, on, voilà, on a ça au corps et on veut surtout pas changer ça, en fait.
Ah non, non, vraiment, c'est trop,
et
trop bien.
C'est à part. En fait, c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on veut préserver. Et c'est aussi pour ça, quand on nous pose tout le temps la question, pourquoi vous passez pas à TP, bah, c'est pour aussi l'une des raisons.
Ouais.
Parce que non, le côté amateur, il nous tient vraiment à cœur. Et quand on voit le sourire, alors, c'est sûr, il n'y a pas 4000 personnes quand les joueurs, les amateurs y jouent.
Mais tant
quand
pis on voit pour le sourire.
C'est ça.
Mais quand on les voit jouer, quand on voit le sourire, bah nous, franchement, on est, ça nous galvanise,
ah ouais,
on est trop contents.
C'est incroyable. C'est, en fait, c'est vraiment indescriptible. Mmh. C'est le rêve de tout amateur. Et t'es là, tu fous le parquet. Mmh. Et non, c'est fou. Franchement, c'est fou. Et bon, c'est dommage parce qu'il y a une fin. Du coup, forcément, bah, t'as envie de jouer. Et, non, peut-être le seul truc, mettre un troisième set complet, comme ça, on joue vraiment
c'est
à fond.
Placé,
mais,
ouais.
Non, vraiment, c'est incroyable. Merci beaucoup.
Non, mais c'est merci
vraiment
à toi,
trop bien. Alors, qu'est-ce que j'avais comme petite question? Bah, moi, c'était surtout sur le recrutement des joueurs. Je voulais savoir un peu comment ça s'organise,
ça
comment tu les trouves, comment tu les contactes.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Alors. Nous, en fait, pour rappeler rapidement, l'Open de Caen, derrière, c'est le Tennis Club de Caen.
Mmh,
c'est une association de la Zone 1, c'est un club comme des centaines, des milliers en France. On passe pas en direct par les joueurs, parce qu'on n'a pas forcément les contacts. Et puis, dire toc toc toc, on est Tennis Club de Caen, ça t'intéresse de venir à l'Open, ça marche pas des masses sur un Renault ou sur un demi-mar, par exemple. C'est qui? Caen? Cannes?
Non, je connais Cannes, pas. Oui, c'est déjà pour apprendre à prononcer.
On a déjà eu ça.
Ah ouais,
un joueur, une fois, Cannes. Qui pensait qu'il venait à Cannes.
Ouais, bon,
il était un peu déçu du climat.
Ouais. C'est très beau en Normandie.
Voilà. Non, mais plus sérieusement, en fait, on passe par l'UNJPT. C'est
okay.
L'Union Nationale des Joueurs Professionnels du Tennis. En gros, c'est le syndicat des joueurs pros français. Et dans cette entité, qui est aussi une association, il y a une filiale commerciale qui s'appelle Tennis Pro, qui a en charge, elle, de promouvoir le tennis partout en France et qui vient en soutien, on va dire, d'événements hors ATP WTA.
Là,
c'est un autre format, c'est professionnel. Et on est de très très loin le plus gros tournoi avec lequel ils travaillent.
Ouais.
De très très loin. Et dans cette entité, on a une personne, un intermédiaire unique, donc qui gère Tennis Pro, qui travaille aussi pour Lacoste, qui travaille aussi pour Roland Garros,
donc,
et qui est un ancien joueur pro.
Ok.
Qui a été 130 mondial, qui a joué contre Chung au premier tour à Roland une année. C'est vraiment notre porte d'entrée à nous.
Mm-hmm.
Voilà. Sans lui, clairement, je pense que même sans le financement, on n'a plus d'open.
Ouais.
Parce que c'est vraiment lui qui est en contact en direct avant l'événement. Après, sur place, évidemment, nous aussi, on est en contact avec les joueurs, etc.
Oui, bien sûr.
Mais avant l'événement, c'est vraiment lui qui est, on va dire, notre porte-parole, qui vient vendre un petit peu l'événement. Après, ce qui aide aussi, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs et de joueuses qui connaissent déjà l'événement.
Mm-hmm.
Pas que français, de toute l'Europe, même plus.
Fait son petit nom, en fait.
Et donc, du coup, ça aide aussi. Voilà, quand on a un Demi-Nord, un Runeux, etc.,
oui,
un Medvedev et beaucoup d'autres qui sont venus. Et quand les joueurs voient le palmarès avec Kontaveit, avec Svitolina, avec Tozen l'année dernière, ok, c'est sérieux, ok, c'est solide. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à attirer des joueurs et joueuses de premier plan.
Et ça peut être n'importe qui, en fait, ça tape un peu partout.
Oui et non, parce que on sait très bien qu'il y a des joueurs et joueuses qu'on n'aura jamais, parce qu'à cette période-là, pour certains, ils ont déjà franchi l'Atlantique, en fait. Ils sont soit à Dubaï, soit à Miami, parce que il y a des conditions de jeu qui sont exceptionnelles, avec des tournois d'exhibition, avec des dotations qui sont hallucinantes, et ça les rapproche aussi de l'Australie. Donc notre intermédiaire aussi, il sait très bien. Et puis il y a aussi la question du budget qui revient, c'est-à-dire que aujourd'hui on est sur un budget de entre 900 000 et 1 million d'euros, ce qui est déjà important. Hein.
C'est pas mal.
Mais c'est juste ce qu'il faudrait sur un Alcaraz par exemple. Donc on sait très bien que voilà, on a aussi une enveloppe à contenir, à respecter, même si elle est en constante évolution. On pourra en parler après pour la 20e. Elle va vraiment augmenter pour cette année, pour les 20 ans. Mais voilà, donc il y a le budget, il y a le réseau qui fait que. Et puis il y a la nationalité des joueurs aussi. Certains qui sont domiciliés déjà à Dubaï, donc qui sont très peu en Europe.
Ouais.
Mais malgré tout, malgré ces conditions-là, ces freins-là, on a quand même un vivier de joueurs et de joueuses de premier plan assez conséquent.
Oui, c'est ça. Bah oui, vous arrivez un peu à taper même dans toutes les nationalités, même top 20 et tout. Donc
de
c'est...
plus en plus. De
c'est
plus
trop,
en
trop
plus,
bien.
Depuis, depuis déjà les années Zénith, on a ouvert. Alors au début, c'était les cousins, hein, c'était les Belges, c'était David, c'était David Goffin. Après, c'était l'Espagne avec Bautista Agut, avec David Ferrer aussi.
David Ferrer,
j'avais des étoiles dans les yeux quand il est venu.
Ah bah c'est des beaux noms, c'est clair.
Et petit à petit, comme ça, voilà. Et puis maintenant, avant c'était européen, et puis maintenant on arrive carrément à être internationaux. Et la chance aussi qu'on a en France, c'est que par exemple, il y a des infrastructures, notamment à Nice, avec l'Académie de Mouratoglou, où on a des joueurs internationaux de premier plan, hein, qui s'entraînent quasiment à l'année. Donc pour nous, c'est intéressant aussi.
Ouais, non, c'est top. Non, franchement, c'est vraiment bien.
Et une force aussi, je me permets de le rappeler, une force du tournoi aussi, c'est justement ce placement dans le calendrier d'année. Alors, toute fin d'année civile, proche des fêtes de Noël pour nous, mais pour les joueurs et joueuses de tennis, on le rappelle, c'est vraiment le début de l'année. En fait, l'année commence pas en janvier, elle commence en décembre.
Exactement.
La préparation, déjà, on travaille le foncier, le physique, peut-être parfois un peu plus de technique, ça dépend de certains. Mais voilà,
après la Coupe Davis qui se termine en novembre, ils sont déjà dans la saison d'après. Nous, on arrive, en fait, on s'est pas mis là par hasard, hein. C'est pas une coïncidence. On s'est mis là justement pour ces atouts-là.
Oui, c'est une manière de se mettre en jambe un petit peu, de se préparer pour le début de l'année, doucement. Non, c'est plutôt cool. Et toi, du coup, depuis combien de temps tu gères tout ça? Est-ce que c'était vraiment là depuis le tout début?
Alors non, l'événement a commencé en 2007. Okay. Moi, je suis arrivé en 2013. J'ai fait mon stage de Master 2 à l'Open de Caen. En fait, j'avais visité les locaux dans le cadre de mes études avec la promo. Et j'allais déjà avant à l'Open de Caen en tant que spectateur. Parce qu'étant passionné de tennis, l'Open de Caen, c'est quand même cool. Et donc, quand j'ai visité les locaux, j'avais rencontré à l'époque Aristide Olivier, qui est aujourd'hui maire de Caen, qui était directeur de l'Open de Caen. Et une belle rencontre, et c'est lui qui m'a formé en fait. Lui qui m'a formé sur ma première année en tant que stagiaire. C'était un stage de 9 mois, donc assez long. Et puis après, petit à petit, j'ai pris mes marques, et puis aujourd'hui je pilote l'événement depuis déjà pas mal de temps.
Belle évolution.
C'est vrai.
depuis 2013 du coup, donc ça va être ta
14e
édition.
14e, t'as la chance de faire la 20e du coup de l'Open.
Ouais,
ça,
exactement.
Vous avez déjà des petits programmes, petites exclus
Alors non, par contre, en fait, je travaillais sur les animations cet après-midi avant de venir.
Ah ouais.
L'idée, c'est qu'effectivement, alors il n'y a rien de figé. Pour l'instant, on est vraiment à l'étape d'idées. Je balance des idées, enfin on balance des idées, je ne suis pas tout seul. Hein. Après, on va voir ce qui est le plus réalisable aussi. Mais l'idée, c'est ça, c'est que sans changer, sans dénaturer l'événement, c'est d'apporter des petites surprises un peu partout, à droite, à gauche, avec comme fil rouge, bien sûr, les 20 ans.
Oui, bien sûr, histoire de marquer le coup.
C'est
peu.
Ça.
Ouais, voilà. Non, je comprends. Et du coup, là, vous avez déjà commencé. Enfin, ça commence à quelle date, en fait, à peu près, quand vous mettez un peu tout en place, vous contactez les joueurs, vous organisez vraiment l'événement. C'est quoi un peu la timeline?
En fait, il y a beaucoup de sujets. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle. Si on parle vraiment des joueurs, là, notre intermédiaire, il va à Roland prochainement. On va passer deux trois petites invites. Mais c'est vraiment à partir de septembre-octobre que ça s'accélère et que ça se finalise vraiment fin octobre. Et on annonce les joueurs tout début novembre. En fait, on fait ça, c'est assez tard, mais à la fois nous on se préserve, parce que si on annonce un joueur qui se blesse, on a l'arme à l'un. Si on met un gros montant sur un joueur parce qu'il fait un début de saison incroyable et que derrière le mec s'écroule, en fait t'as grillé tes cartouches pour un joueur qui finalement va pas attirer beaucoup de monde. Donc nous on se protège, et puis les joueurs, pour eux, décembre à l'heure de jouer, c'est très loin. C'est vraiment la saison d'après.
Ils
savent même pas des fois ce qu'ils vont faire dans 3 semaines, hormis les grands chelems qui sont vraiment calés pour tous les meilleurs. Sinon, des fois, en fonction de la fatigue, en fonction des points à défendre par rapport à l'année N-1, ils savent pas ce qu'ils vont faire dans le mois d'après, quoi.
Oui, donc la rapidité, un peu, tout s'enchaîne en fait, mais c'est un peu obligé. Au final,
ça va très vite.
Ouais.
Une fois que ça démarre, ça va très vite.
Ouais. Mais après, c'est bien, ça permet de rester en jambes
Mais c'est des moments de stress, mais d'excitation. Moi, je suis un enfant, j'ai des étoiles dans les yeux. La première fois que j'ai vu de son gars, quand il était dîner mondial, c'est fabuleux. Et on envoie la lettre Père Noël, et puis on attend que le cadeau il arrive. C'est ça. Et quand on a un coup de fil, alors, c'est bon, c'est oui, c'est non, c'est. Il y a le petit palpitant, quoi.
C'est top.
Par contre, toi, tu as ton cadeau avant Noël.
C'est
ton cadeau 10 jours avant.
C'est ça.
Mais quel cadeau?
Sacré cadeau, ouais, c'est clair. Et du coup, pour rester un peu dans la timeline, la journée un peu type à l'Open, ça serait quoi pour toi?
Alors, à l'Open ou avant l'Open?
À l'Open, genre premier jour.
Premier jour
où tout s'installe.
Déjà, t'as l'installation, ça met à peu près. T'as 2 jours et demi d'installation.
Ouais.
En fait, je dis toujours que le montage, c'est un peu une partition musicale. C'est-à-dire que t'as beaucoup de prestataires et donc d'instruments qui jouent en même temps, qui montent en même temps, quand on a un qui se plante tout de suite à la fausse note. Donc en fait, ça peut décaler les autres.
Bah oui, c'est ça.
Donc en fait, ils ont chacun leur partition à jouer pour que tout se passe bien. Et donc on commence par monter le plancher. Donc on protège déjà le parquet du basket.
Ouais.
On fait très attention.
Oui, parce que, alors juste, avant, c'est un terrain de basket, c'est ça? Terrain
en fait,
de basket et...
Si tu veux, on ne démonte pas le plancher du basket, tu sais le laisser. Par contre, on vient se poser dessus, on vient le protéger, on met de la moquette, on met une bâche aussi.
Ah oui,
et après, on met le plancher bois. Le plancher bois qui est identique à celui de l'Open d'Australie. C'est vraiment la même surface pour que les joueurs puissent justement s'identifier et envie de venir et se jauger. Donc on fait attention. Donc voilà, on monte le plancher. Après, il y a les couches de résine. En parallèle, on monte les loges autour. Et encore en parallèle, il y a tout ce qui est son, lumière, éclairage, etc. Qui se monte. Et on installe aussi tous les salons. Tous les salons partenaires, on installe aussi le grand public, on installe aussi la chaîne, les plateaux de télé, le poste de commentateur.
On n'oublie pas.
Merci encore Radio Phoenix. C'était top.
Merci à toi.
Voilà, il y a beaucoup de choses. Et si tu veux, moi, comment je fonctionne, c'est que j'ai un échéancier, jour par jour et heure par heure, que j'envoie à tous les prestataires. Je fais une réunion de montage un mois avant l'événement pour justement expliquer à toutes les parties prenantes ce qu'ils doivent faire et quand. Et les impératifs et les points soit bloquants ou soit où je leur demande d'avoir une alerte, notamment si deux prestataires doivent travailler en même temps, dire attention, lui va faire ça à tel moment, faut que toi t'aies fini ça avant, etc., pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de tension. Parce qu'en événementiel, c'est super, mais effectivement, des fois, il y a un peu de stress, il peut y avoir des tensions. Donc, moi, mon rôle, c'est tout organiser et que justement, les gens soient travaillés dans de bonnes conditions, en fait.
Le chef d'orchestre, en fait.
Un peu, ouais.
Sans toi, il y a tout qui tombe.
Non, personne n'est remplaçable.
Non, c'est...
Mais effectivement, mon rôle, c'est vraiment tout anticiper, tout mettre en place et que s'assurer que tout se passe bien.
Ouais.
Et que les gens travaillent bien, que les bénévoles soient contents d'être là, que ce soit une fête et que les gens ne se sentent pas obligés d'être là et que ce ne soit pas bien. Quoi. C'est tout l'inverse.
J'avoue, c'est un peu la partie moi, à chaque fois qui m'impressionne, c'est le montage des montages. Moi, ça, c'est un truc, c'est à chaque fois on le voit, du coup, on commence à le voir pour ceux qui restent le plus longtemps le dernier soir, parce que le démontage commence tout de suite après. Dernier, le lendemain soir, il y avait le derby de handball contre Cherbourg. Le lendemain de la finale de l'Open, il fallait que la config hand soit faite. Et tu te dis, en moins de 24 heures, ça passe de la finale Quentin Alice avec tout le monde, les cotillons sur le cou, etc. le lendemain soir, il y a le derby quand on bat avec la mascotte et compagnie. Donc, c'est un truc vraiment qui est assez incroyable.
C'est pour ça vraiment qu'il faut. C'est de l'anticipation aussi. Il faut anticiper tous les scénarios. Alors, je n'avais pas anticipé l'année dernière. C'était le blocage du rond-point par les agriculteurs. Ça, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Celui-là, je ne l'ai pas vu venir. J'ai quelques prestataires qui venaient pour récupérer du matériel. C'était un peu compliqué.
C'était le lendemain.
Comme quoi, je n'ai pas assez travaillé.
Est-ce que tu as un souvenir, un peu un aléa, un truc que tu n'avais pas prévu, peut-être le plus gros?
C'était pas mal.
Je pense que c'était pas mal.
Après, Covid.
Covid.
L'année 2021, en plus, il y a l'élection de Miss France qui s'est faite à Caen.
Oui,
donc, on a décalé nos dates pour intégrer l'élection de Miss France, plus le Covid, où la préfecture, jusqu'au dernier moment, on avait peur de ne pas pouvoir le faire.
Ouais.
Et on a réussi à le faire, mais on a dû aménager. On a eu 2 jours pour repenser carrément tout notre fonctionnement VIP. C'est-à-dire qu'on a rajouté un chapiteau sur le parvis, on a fait que des trucs, des emballages individuels, on a mis du gel partout, on a fait des flux différents. On a eu 72 heures pour repenser tout ça. Quoi.
Ouais, c'est horrible.
Plus l'élection de Miss France, etc. c'était chaud.
Miss France qui était là d'ailleurs à l'Open de Caen.
C'était
Miss Normandie.
Miss
Normandie 2025.
Miss France manquée, dommage.
Sinon, des anecdotes, j'en ai plein. J'ai l'avenue de la Coupe Davis en 2017, j'ai accueilli avec les fourgons blindés, les gars avec le pistolet à la ceinture, des trucs, je suis rentré dans le fourgon, j'ai vu, le truc de l'intérieur, quoi, la Coupe Davis, qui est sur 3 niveaux, qui se monte, etc. C'est des trucs, c'est incroyable. C'est l'événementiel pour ça, on vit des trucs fous.
T'oublies jamais en fait.
J'oublie jamais aussi quand Benoît Paire, il est venu l'année sans. Il arrive 2 heures avant son match. Bon, alors je m'entraîne quand? Et sinon, j'ai oublié mes chaussures, j'ai oublié mes raquettes et mon cordage.
Je l'avais celle-là.
Ok, Benoît, comment te dire? Alors, redis-nous, c'est quoi ta pointure? C'est quoi ton. Évidemment, c'est pas n'importe quelle pointure, c'est pas n'importe quel modèle, c'est pas n'importe quel type de raquette. Heureusement, on a beaucoup de contacts et puis on a un partenaire aussi qui a joué le jeu et qui a été hyper réactif. Mais voilà, les coups de chaud des fois, c'est.
J'imagine tellement Benoît Paire.
Ouais, ça lui va tellement bien.
Ça marche tellement bien avec le personnage.
Mais à côté de ça, il est classe, c'est un amour. Mais c'est vrai que des fois, sur le coup, il est. il faut ça.
Fais du Benoît Paire, quoi, finalement. Tu lui fournis une raquette qui va péter dans la seconde après.
C'est ça,
c'est vrai.
Bah, c'était pas Medvedev ce week-end. Hein.
Ah, on va reparler de Medvedev dans quelques minutes.
J'ai hâte.
La raquette, elle a pris cher.
C'est clair.
Et justement, en parlant de terrain, je crois que Marine, tu avais envie de poser une petite question à Arnaud à propos de terrain.
Ben ouais, attends, parce que voilà, toi, t'es dans l'ombre, tu mets la lumière sur tout le monde et tout, mais à quand Arnaud sur le terrain? Attends.
Si tu voyais mon niveau, je te retournerais pas une mauvaise
attaque. Oh, mais si.
Non.
On est à pleine balle.
Tu tapes dans la balle jaune quand même.
Moi, ouais, je suis même plus à la 4ème série, je suis à la 5ème série. Oui, bien sûr, mais je suis passionné, je joue bien sûr, mais j'ai pas beaucoup de temps pour jouer et j'ai un niveau qui est tellement catastrophique que personne n'aurait envie de voir ça en fait. Personne.
Ah, oh, t'es méchant.
T'es dur
avec toi-même.
Je bats Clément, mon alternant. c'est ma petite satisfaction personnelle.
Mais voilà, c'est bon. Il faut le voir pour la 20ème, c'est ça, c'est le duel.
S'il m'entend, il va me détester.
Clément, on passe le message.
Mais non, j'ai un niveau qui est bien trop mauvais pour ça.
Ah, quand même.
Faut
la 20ème, un petit match, petit tie break.
Non, je te personne n'a envie de voir ça. Je te personne. Ça fera pas partie. J'ai pas d'excuses, mais je sais que je peux dire que ça fera pas partie des animaux.
Tu n'as pas travaillé dessus cette
année. Ah, c'est vraiment dommage. Oh.
Et donc là, on va arriver un petit peu à la fin de cette interview. Le temps file. Donc, on le disait, à quelques mois de la 20ème. Là, actuellement, le travail se focalise sur quoi là pour la 20ème?
Là, je suis en train de constituer mon budget. C'est-à-dire que là, sur les 6 premiers mois de l'année, ma priorité, c'est vraiment de savoir jouer au niveau de mon budget pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire sur les nouveautés, en termes de surprises, en termes de plateau, bien sûr, c'est la priorité pour nous. Donc là, je vois tous les partenaires, les prospects, je fais signer les contrats. Et je commence à demander aussi les devis pour que je puisse voir un petit peu où je vais, toujours dans l'idée d'avoir un budget le plus fin possible, le plus tôt possible, pour savoir où je vais pouvoir aller sur le plateau, sachant que là encore une fois, la priorité sur la 20ème, c'est on va aller vraiment mettre l'accent vraiment sur le plateau. On va vraiment dégager une enveloppe supplémentaire assez conséquente, focus sur le plateau.
Bon, bah j'attends Igaz Viatek à l'Open.
Voilà, c'est hors budget. Mais c'est le rêve de tout le monde. Hein. C'est le rêve de tout le monde.
Ah ouais.
Ouais, là, on boxe dans une catégorie des joueurs et des joueuses. Hein.
C'est ce que t'expliquais tout à l'heure.
Il y a ce qui fait rêver.
Oui, et il y a ce qui est faisable.
Et puis, il y a ce qui est faisable.
Ouais.
Après, des fois, il y a ce qu'on pensait pas faisable et ce qui est faisable.
Oui, moi,
Runeux qui vient de gagner Bercy en battant Djokovic au final, c'est pas écrit que tu peux l'avoir à Caen, et pourtant ça s'est fait. Joe, 10ème mondial ou 9ème mondial à Caen, en plus qui est venu 3 fois, moi, la première fois qu'il est venu, mais je me rappelle quand il a passé la porte du nid, je l'ai regardé de haut en bas, mais en fait, le mec est vraiment là, quoi. Le mec, il fait 3 têtes de plus que moi, mais le mec est là. Est-ce que je peux te toucher pour il trouvait ça bizarre, je l'ai pas demandé. Mais voilà, c'est exceptionnel. Enfin, ouais. Et donc, du coup, on s'interdit à rien, mais on sait aussi qu'on a des limites. On sait aussi qu'un Akara, c'est intouchable, qu'un Sinner, c'est intouchable, qu'un Djoko, c'est intouchable, qu'une Ziatek, malheureusement, c'est intouchable. Voilà.
Après, c'est le redescend top 20. Non, vas-y, on va pas lui sous-estimer.
Mais on a eu des joueuses, on a eu Zvitolina qui était 4ème mondiale, on a eu j'ai dit Musiti mais j'ai pas envie de le citer, on a eu Rune qui était 10ème,
Clara Tauzen qui était 12ème
quand elle est venue,
ouais,
on a eu Demineur qui était 11ème, enfin on a eu aussi Gasquet, il est venu plusieurs fois, mais il est venu une fois notamment quand il était top 10.
Hugo
Humbert qui était top 15, Fokina qui était très bien, qui était 14. Non, on peut avoir des top 15, des top 20 chez les hommes comme chez les femmes, mais ce que peut dire c'est chaque année, ce qui est pas dire que ce sera sur cette année, on n'en sait rien. Mais on a la capacité de le faire. Ouais.
De toute façon, en tant que passionné de tennis, à ce niveau-là, même à 150ème mondial, c'est impressionnant. Donc,
c'est
ça qui est top. En fait, après, on vient pour voir du jeu. Donc,
bien sûr. Après, si tu veux aussi vendre des billets,
c'est vrai qu'il y a le commercial derrière. C'est sûr.
Parce que l'idée, c'est de remplir. Tu vois, l'année dernière, on est complet tous les ans depuis le Palais des Sports. Et l'année dernière, on était complet un mois et demi avant l'événement. Donc, chaque année, c'est encore plus tôt.
Avant même le plateau, je crois.
Avant même le plateau. En fait, l'année dernière, c'était. Alors, j'ai dit, c'est horrible. Mais en fait, on était quasiment complet. On avait annoncé aucun nom. Et on a commencé la communication un peu partout. On était complet.
Ouais.
Et là, pour les gens, c'était horrible en fait.
Bon, bah retenez pour cette année, prenez vos places tôt.
La billetterie, je pense qu'elle ouvrira, je pense, mi-juin.
Mi-juin, c'est souvent à peu près à ces eaux-là. Donc, mi-juin, on retient la date. Prenez vos agendas, chers auditeurs, chers auditrices. On note déjà le
petit mai-juin, mai ou juin.
Mai ou juin, d'accord. Mai, attention. Il va falloir être vif.
Eh bien, merci Arnaud,
merci beaucoup,
de nous avoir accordé cette belle demi-heure. On rappelle donc une dernière fois, manager général de l'Open de Caen, la billetterie va ouvrir ces prochaines semaines à suivre. On ne manquera pas de rappeler quand la date sera connue pour cette ouverture de billetterie. That's good stuff. All out of tech from Federer. Et avant d'évoquer l'actualité internationale, notamment d'aller à Monaco, finissons notre page locale en Normandie. Feu la Haute Normandie, lundi 13 avril, débutera à la Kind Arena l'Open Cap Finance Rouen Métropole. Le naming, c'est important. Un WTA 250 sur terre battue indoor, c'est une spécificité du tournoi. Dans la dernière émission, j'évoquais le plateau du tournoi en précisant bien d'éventuels forfaits qui pouvaient survenir.
Tu fais bien, tu fais
Et malheureusement, forfait il y a eu. On le redoutait. Loïse Boisson a une nouvelle fois repoussé son retour. Toujours en délicatesse avec ses moyens physiques, la Dijonnaise a donc déclaré forfait pour le tournoi rouennais. Le timing se resserre, elle qui, on le rappelle, défendra une demi-finale à Roland-Garros. Donc ça commence à être vraiment très très serré. Autre forfait français, Varvara Gracheva, qui va être éloignée des cours pendant une longue période, puisqu'elle a annoncé fin mars qu'elle souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc sa saison 2026, autant vous dire qu'elle est quasiment terminée.
Bon, c'est fini,
sauf rééducation express, mais ça semble quand même très difficile. Donc deux forfaits français, c'est dommage pour le tournoi. Mais dans le même temps, on a eu deux nouvelles wildcards qui ont été annoncées. Sloane Stephens, vainqueur à Rouen 2024, qui revient. Et Diane Paris, la française, actuellement 95e au classement WTA. Ça fait plaisir à Richard pour son envers une autre. Et ça te fait plaisir, visiblement aussi.
Ouais, j'aime bien Diane Paris. Bon, un jeu assez irrégulier quand même, mais bon, comme toute bonne française, on va dire, au tennis. Mais non, Diane Paris, j'aime bien. Elle a un jeu, revers à une main. En vrai, c'est un peu ça qui la caractérise, surtout.
Yes.
C'est assez impressionnant à l'avoir joué. Je l'avais vu à Roland en double.
Okay.
Non, c'était pour les JO, pardon.
Pour les JO.
Bon, c'était Roland, mais c'était pas...
Ouais. Oui, c'est vrai.
Et non, plutôt sympa. Pourquoi pas ? On va dire que ça rattrape un peu Loïse Boisson, qui effectivement, bon, on le redoutait, on s'y attendait un peu, mais... On croise les doigts, quoi. On se dit, elle va peut-être revenir, il va falloir qu'elle revienne à un moment donné. Parce que
ça commence quand même à être vraiment inquiétant, parce que on l'a dit, Roland-Garros, c'est dans un peu plus d'un mois maintenant.
Déjà.
Ça approche extrêmement vite.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de tournois qui va rester là pour essayer de reprendre du rythme avant Roland, donc... Demi-finale à défendre.
Il y a Stuttgart, non, qui arrive. Oui, mais elle n'est pas annoncée, je crois pas.
Je crois pas qu'elle soit annoncée à Stuttgart. Il y aura Madrid, évidemment, le WTA 1000, il y aura Rome aussi. Enfin, voilà, ça se compte vraiment là sur les doigts d'une main. Mm-hmm. On est vraiment dans la dernière ligne droite avant Roland-Garros. Et c'est vraiment dommage. Loïse Boisson, pas à Rouen, du coup, pour cette édition 2026. Et pour être totalement complet sur cette page Normandie, Pleine Balle sera à l'Open de Rouen.
On le précise,
ce sera quand même important. On y sera le week-end prochain, donc samedi 18 pour les demi et dimanche 19 pour la finale, les finales même, puisque vous le verrez, on prépare des contenus. Il y aura des choses à suivre sur nos réseaux. Voilà, à suivre. Et on vous fera évidemment un débrief complet dans la prochaine émission. That's good stuff. All out of tech from Federer. À l'international, maintenant, juste avant de parler de terre battue, on va revenir un instant sur la fin de la tournée américaine avec la deuxième levée du Sunshine Double, le tournoi de Miami, deuxième Masters 1000 américain sur dur après Indian Wells, n'a pas débouché sur de grandes surprises, tableau féminin ou masculin, ce sont les références du circuit sur dur qui l'ont une nouvelle fois emporté. Pour le tableau féminin, c'est Aryna Sabalenka qui a triomphé de Coco Gauff en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3, la numéro 1 mondiale a conservé son titre à Miami et accentué encore son avance en tête du classement WTA, presque 3000 points d'avance sur Rybakina, sa première poursuivante. Et chez les messieurs, idem, aucune surprise. Dans nos pronos il y a 15 jours, on voyait difficilement comment le trophée pouvait échapper à Yannick Sinner. L'Italien a facilement tenu son rang. Victoire 6-4, 6-4 face à Lechka en finale que j'avais annoncée.
Petite surprise quand
même. Surprise quand
même
Lechka.
C'est plutôt sympa d'avoir un petit vent frais comme ça.
Tout à fait.
J'aime bien.
On voyait Arthur Fils, on va y revenir peut-être juste après, mais c'est Lechka finalement qui a rallié la finale face à Sinner, donc Sabalenka et Sinner, qui réalisent le Sunshine Double, Indian Wells et Miami. Faut bien le dire, on n'est pas vraiment surpris
de
cette domination.
Non, bah après c'est une domination sur dur qui est assez, on va dire assez, pas classique, mais qui était très attendue, à voir ce que ça donne sur terre battue maintenant.
Oui.
Surtout pour Sabalenka, je trouve que sur terre battue, elle est quand même largement moins favorite que sur dur. Elle a beaucoup plus de difficultés, je trouve. Sinner, bon, ça reste Sinner, hein, on va pas.
Ouais,
mais
Sinner aussi déblatérer. A quelque chose à aller gratter.
Bah, en fait, Sinner, ça dépend vraiment de la forme d'Alcaraz, je trouve.
C'est ça, ouais, battu, il dépend d'un autre larron.
C'est ça.
C'est vrai.
Ah ouais, non, c'est vraiment ça. Dépend, donc, à voir ce que ça peut donner. Du coup, on en parlait Stuttgart, justement. Ouais. Ça va être le premier gros challenge féminin sur Terre pour les filles. Là, bon, les hommes, on est sur Monte Carlo, donc. À voir un peu la préparation Roland-Garros, ce que ça peut donner. C'est surtout Roland-Garros, la grosse échéance.
C'est vrai. Là, on est vraiment focus sur terre battue. Ouais. Et justement, donc je le disais rapidement, un mot quand même pour Arthur Fils, qui signe une nouvelle belle performance en Masters 1000, une demi-finale. Il est sorti vainqueur d'un gros combat face à Tommy Paul en quart de finale, trois tie-break.
C'est fou furieux, ça.
Mais on l'a senti quand même cramé en demi.
Ouais, clairement.
On l'a senti cramé face
clairement,
à
Clairement, la récup, elle n'était pas là. Ça se comprend.
Ouais,
en vrai,
face à un joueur un petit peu similaire aussi dans sa filière de jeu. Assez rythmé, cadencé, genre qui frappe fort aussi, Lechka. On l'a senti vraiment en manque d'armes.
Oui, c'est ça.
Physique,
puis pour le coup,
bien...
Lechka, ça fait partie un peu des joueurs un peu irréguliers, quoi. Tu sais pas trop ce qu'il va donner sur le terrain. Il fait des grosses saisons, il fait des.
Mais avec un gros plafond. En vrai, il est quand même capable d'aller chercher des grosses.
Ah oui, non, c'est clair, mais c'est pour ça, c'est un peu les joueurs traquenards, en fait, par excellence.
C'était un piège, on le sentait.
Et Lechka, c'est plutôt cool, je suis contente, on va dire, contente avec des gros guillemets, hein, mais c'est vrai que l'année dernière, on ne le voyait plus trop. J'aime bien les petits joueurs.
J'aime bien l'Est de l'Europe. On a compris.
C'est vraiment ça, j'adore le froid.
J'adore le froid.
Avoir des petits challenges comme ça qui viennent titiller les grosses têtes, moi je suis toujours pour là, toujours pour ça. Et puis Lechka, j'aime bien son jeu, j'aime bien sa vibe. Ça reste un joueur assez discret, j'aime bien les joueurs discrets, donc pourquoi
tu
pas.
Tu l'aimes bien, quoi.
Ouais, je l'aime bien.
Tu l'aimes bien. Et bien, on va voir ce qu'il va donner sur terre battue, puisque maintenant, ça y est, on peut le dire.
Ça y est, c'est la terre.
On y est, sur terre battue. Et c'est la meilleure partie de la saison, hein, soyons honnêtes. Le gazon, c'est bien, le dur, c'est bien, mais la terre, c'est mieux.
Oh, le gazon,
faut le dire.
C'est bien,
voilà.
C'est gentil. Hein.
Oui, mais on va essayer de contenter tout le monde, de ne pas faire de mécontents et de mécontentes.
Toutes mes excuses.
Mais tu as complètement raison. Et pour observer les premières glissades de la saison, on avait une palanquée de tournois 250 et 500, des tournois au charme indéniable, hein, que les instances internationales veulent faire mourir au profit des grosses cylindrées que sont les Masters 1000, et c'est fort dommage, on ne le rappellera jamais assez. Aux États-Unis, Jessica Pegula a remporté le 500 de Charleston et Tommy Paul n'a pas eu de problème pour gagner à Houston. La blague à Houston n'a pas de problème, évidemment. Elle est facile. Plus proche de nous, l'ATP 250 de Bucarest a vu la victoire d'un vrai rat de la terre battue, Mariano Navone. Lui, là, voilà, moi, c'est mon chouchou.
Ah ouais?
Ah, j'adore Navone. L'Argentin, toujours aussi à l'aise sur ocre, qui remonte aux portes du top 40.
Oui.
42e.
Premier titre ATP d'ailleurs. Pour
effectivement,
lui,
premier titre ATP pour notre cher ami Mariano Navone. Mais surtout, nous avions l'honneur de pouvoir suivre le tournoi le plus attendu de l'année par un certain membre de la rédaction de Pleine Balle. Certes, Richard n'est pas en studio avec nous ce soir, mais chers auditeurs, chères auditrices, il a pensé à vous. Salut tout le monde! Eh ouais, je voulais vous faire un petit coucou, je suis pas là mais je suis là, je suis là mais je suis pas là. C'est la magie de la téléportation, la magie de la technologie, c'est la magie de la radio, bon sang! Eh, pour fêter ça, est-ce qu'on se ferait pas un petit jingle? Y'a quelqu'un en régie? Émile, t'es là ou pas? Allez, jingle!
3, 4, foot, 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 foot.
Ah bah on est mieux comme ça, non, moi je préfère quand le décor il est bien planté. Et en parlant de décor, je vous emmène dans un décor de rêve. Il fait beau, il fait chaud, la terre battue pétille et le thé à la menthe coule à flot. Welcome in Marrakech. Tous les ans, on l'attend avec la plus grande impatience. C'était le Grand Prix Hassan 2 hein, la semaine dernière. Et bah, tous les ans, on a droit à de belles surprises hein, à Marrakech. Cette année, encore des surprises, mais surtout une belle histoire. Vous en avez peut-être entendu parler. L'épopée d'un joueur argentin qu'on ne connaît pas forcément, Marco Trungeliti. Il a atteint la finale du tournoi. Il s'est incliné contre un jeune Espagnol, 19 ans, Rafa Rodar. Bon, jusque-là, rien de fou. Mais pour ce joueur argentin classé au-delà de la 100e place mondiale, ce tournoi, il marque un tournant incroyable dans sa carrière. Et ouais, il rentre enfin dans le top 100. Oui, enfin, parce que ça fait un moment qu'il le visait, le top 100. Hein. Contrairement à son jeune adversaire en finale, et ben Marco, c'est pas un lapin de 6 semaines. Hein. Il a 36 ans, le père Marco. Et sa semaine à Marrakech bat tous les records. C'est le plus vieux joueur de l'ère Open, donc depuis...
1968, oui, à atteindre une première finale ATP. Et c'est aussi le plus vieux joueur à rentrer dans le top 100. Pas mal tout ça, hein ? Un aboutissement longtemps espéré pour ce joueur de Challenger. Il a joué plus de 500 matchs dans la division 2 du tennis. Il a longtemps oscillé entre la 100e et la 200e place mondiale. Mais depuis quelques mois, son niveau était vraiment hyper intéressant. La preuve, sur le circuit Challenger, il a remporté 7 titres en presque 15 ans, dont 4 sur les 12 derniers mois. Avec une motivation intacte à son âge avancé, puis un niveau de jeu qui ne fait que monter, et ben le voilà récompensé avec aujourd'hui une 76e place au classement PIF et une place garantie dans le grand tableau pour Roland Garros. Alors Roland Garros, oui, il l'a déjà joué en sortant des qualifs et il a déjà remporté des matchs, hein. En 2016, au premier tour, il bat Marin Cilic, ah ouais, top 10 le Croate à cette époque, vainqueur de l'US Open 2 ans plus tôt. Et en 2018, il échoue au dernier tour des qualifs, il décide de rentrer en Espagne là où il résidait, mais devant une cascade de forfaits, bah, il décide de refaire la route vers Paris au dernier moment. 10 heures de voiture avec sa grand-mère sur le siège passager pour finalement être repêché en tant que lucky loser et battre au premier tour notre ami australien Bernard Tomic. Des folles histoires quand même avec Marco. Alors pour rester sur Roland Garros, est-ce que vous connaissez le point commun entre Marco Trangeliti et Adrian Manarino ? Eh bien ils ont gagné autant de matchs à Roland Garros, 3, et ils n'ont jamais dépassé le deuxième tour. Alors un des deux va-t-il faire évoluer ses stats cette année porte d'Auteuil ? Et si on avait le droit à un choc au premier tour entre Manarino et Trangeliti ? Alors là tous les paris sont ouverts, hein. Bref, encore une très belle histoire offerte par le tournoi Hassan 2, à l'heure où les vieux briscards nous font vibrer les derniers matchs de Monfils, de Wawrinka, les dernières pralines de Cilic, les derniers revers majestueux de Dimitrov. Et ben voilà un papy qu'on n'avait pas vu débarquer et qui vient rafraîchir longs cheveux au vent, un circuit ATP parfois un petit peu trop routinier. Et c'est surtout l'occasion de se rappeler qu'on peut jouer son meilleur tennis passé les 35 ans. Allez, c'est décidé, moi je repars en tournoi. Hein. Cet été, je vais faire une Trangeliti sur les tournois de la côte. Les TMC 4ème série, attention. J'arrive.
Il est prévenu au moins. Alors, il prévient.
Ok. Bah, j'ai hâte de
on
voir
note.
Ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je vais lui faire un petit florilège de tout ce qu'il y a sur la côte. Il aura intérêt à y aller.
Tu vas lui faire un programme récup physique.
Et en mais il y aura tout.
C'est parfait. Je veux dire, on a des chroniques mentales avec Simon pour bien travailler le mental.
Ouais.
Marine, tu vas lui faire une petite prépa physique comme
petite
il se doit.
Prépa physique avec l'alimentation et tout à côté.
Je pense que là, il est 5-6 à la fin d'été.
Ah bah clairement.
On est d'accord.
Et encore 5-6, minimum. Hein.
Minimum.
Ah bah.
C'est le plancher.
Ouais,
c'est l'objectif.
Clairement.
Ok, Richard, on t'attend au tournant.
Hot.
Allez, c'est l'heure. Venons-en au premier grand rendez-vous terrien de la saison. Direction la principauté, c'est Monte Carlo. Alors, Monte Carlo sans la colonie américaine, hein, qui a squeezé la parenthèse monégasque. Pas de Shelton, pas de Fritz, pas de Tommy Paul, pas d'Arthur Fils non plus. Le Français a préféré souffler hein, cette semaine, lui qui a pas mal enchaîné ces derniers temps après des longs mois de blessures. Joe Colcroco, pas là non plus. Malgré ses absences, on a quand même un très très beau plateau, digne de la beauté du rocher. Et c'est pas moi qui le dis. Hein.
Oh Monaco, oh Monaco. Ton rocher est le plus beau.
Jeff Tuch, la voix de la raison.
La référence française par excellence.
Évidemment, la voix de la raison.
Oh là là là.
Si il le dit, je ne vois pas qui peut le contredire.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Donc, Jeff Tuch n'a jamais dans nos cœurs. Alors Jeff Tuch, lui, n'est pas dans le tableau, hein, Jeff Tuch. Mais par contre, Alcaraz, Sinner, Zverev, Musetti, Demineur et j'en passe, tous présents pour commencer à faire leurs armes en vue de Roland Garros. Hein, on le disait tout à l'heure pour Loïs Boisson, qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois donc, et qui dit début de saison sur terre, dit des joueurs pas forcément en rythme sur la surface. Donc, un tableau propice aux surprises et la belle histoire, je vais arrêter de parler de surprise parce qu'à force il n'en est plus vraiment
une, c'est ça, hein.
C'est Valentin Vacherot à domicile, le monégasque est en quart de finale en ce moment même face à Alex Demineur après avoir notamment éliminé Lorenzo Musetti, quand même une référence sur la surface. Il y a actuellement 1-7-0 pour Valentin Vacherot, d'ailleurs un 6-4 pour le monégasque, 3-2 avec le break pour Demineur dans le deuxième set, donc c'est assez serré, mais il est encore bien parti. Où va-t-il s'arrêter, Valentin Vacherot, franchement ?
En finale, hein.
En finale ?
Et moi j'y crois.
Il est côté Alcaraz.
Il est côté Alcaraz, mais Alcaraz, bon, il a quand même lâché un set, Sinner également, mais bon.
Ah.
Il a quand même eu beaucoup de mal à se défaire d'Echeverry, je trouve.
Echeverry, gros client. Hein.
Ouais.
Bon client sur terre battue, quand même.
Petit traquenard, quand même. Mais
ouais, match piège.
Mais bon, il s'est quand même défait assez facilement de Bublik.
Ah, par contre, ouais, Bublik, ouais. Il ne lui a pas fait de cadeau. 6-3, 6-0 tantôt.
Après, j'avoue que Bublik sur terre, ça colle pas, je trouve.
Ah ouais, moi je trouve que c'est pas forcément le pire joueur du monde.
Je dis pas que c'est le pire, mais je le trouve largement meilleur sur dur.
Oui, donc, il a pas, il a un physique, évidemment, il a un, c'est un grand joueur qui quand même, il y a un physique à déplacer quand même.
Ouais.
Il est moins, il est moins rapide, il est moins véloce sur ce genre de surface qui demande beaucoup de travail sur les appuis, sur les jambes, etc.
Et du coup, contre un Alcaraz qui est très très rapide, ça me choque pas en fait.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas
surprenant. La dérouiller comme mais... ça me choque pas du tout. Mais non, Vacherot, j'ai regardé hier son match contre Hurkacz.
Hubert Hurkacz.
Incroyable. Je suis arrivée début du deuxième set et je me suis dit bon bah c'était bien Vacherot, il est arrivé quoi en huitième, en quart, je sais plus.
Là il est en quart contre Dominant, donc c'était son huitième.
Donc c'était son huitième, je me suis dit ah c'est une belle histoire quand même.
Mais c'est bon
voilà, ça y est, c'est là. Fini, en plus sur catch voilà qui revient.
Pour catch chiant aussi, hein, jouer sur terre.
Ouais, de fou, et puis il semble bien revenir pour cette saison-là.
Oui.
Donc va falloir faire attention à lui aussi, et je me suis dit voilà, ça y est, c'est fini. Et puis je m'absente 20 minutes et puis je reviens, oh il a gagné le deuxième set. Et le troisième set, c'est un truc de fou furieux. Il a vraiment un niveau qui vient... Enfin, ça vient vraiment talonner un top 10, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est vraiment impressionnant. Et puis, bon, après, il y avait le public qui était forcément...
Évidemment. Mais
derrière lui, c'était... Mais c'était vraiment un match de fou. Et la solidité, surtout mentale, parce que tu voyais les deux joueurs qui étaient mais à bout physiquement. Enfin, ça se comprend, je sais plus, 2h40 de jeu.
Ouais, c'est un gros duel. Hein.
Ouais, il termine... il est 21h, 22h. Enfin, un enfer, quoi. Et mentalement, il était mais impressionnant.
Et c'est vrai qu'il continue à impressionner semaine après semaine.
Mais ouais.
On le disait déjà il y a quelques temps, je crois que c'était dans la dernière émission d'ailleurs. Et ouais, il ne s'arrête pas. Il continue à gagner des matchs, tournoi après tournoi. Alors là, il se rapproche, peut-être va-t-il rallier le dernier carré à domicile.
Mais ça serait incroyable.
Il collectionne des belles histoires quand même.
Bah
après
ouais.
Shanghai, où il fait finale avec son cousin Arthur Hinderknecht. Là, peut-être une demi à domicile. On va en reparler dans nos pronos. Mais pour ça, restez jusqu'à la fin de cette émission. Émile, pas peu fier de sa petite virgule, mais il dit Wii Sport, évidemment.
Et j'arrive jamais à la reconnaître, c'est fou.
Ah ouais ?
Ouais.
Ouais, c'est Wii Sport. Là, il y a 6-2-6-2, là.
Ah ouais, ok, ouais. D'accord.
Ouais, okay. Ça fait ce bruit-là, je reconnais.
Ça sent le vécu, là.
Oui, je n'ai pas eu d'enfance. un mot sur les résultats des Français engagés à Monte-Carlo, quand même. Ils étaient 8 sur la ligne de départ, sans l'homme en forme du moment, on le disait, Arthur Fils. Mm. Et malheureusement, aucun n'a passé le deuxième tour. Gros duel tout de même pour Rinderknecht face à Fonseca. En 3-7, un match correct pour Corentin Moutet face à Casper Ruud. Mm. Quand même, toujours un bon joueur sur terre. Mais pour le reste, c'est plus compliqué. Hein. Hugo Humbert n'a marqué que 3 petits jeux face à Yannick Sinner. Atman n'a pas fait le poids face à Ethan Quinn, là quand même c'est un peu plus gênant sur terre battue. Mm. Gaël Monfils a fait ses adieux à Monte Carlo face à public avec quand même de belles images. On a vu les deux joueurs vraiment discuter vraiment longuement après leur match, avec la belle anecdote où
public
était sparring partenaire de Gaël Monfils en 2016. Mm. Et là finalement c'est Bublik qui élimine Monfils pour son dernier match.
Trop mignon.
Ouais, franchement, c'était une belle image. Puis Bublik, vraiment un bon gars. Enfin, ça se voit et ça se confirme.
Ils ont la même vibe de toute façon sur le terrain. Ouais. C'est des joueurs qu'on aime bien.
Ça se confirme. Adrien Manarino s'est lui aussi incliné au premier tour face à Zizou Bergs. Et est-ce que tu as vu passer cette stat magnifique sur Adrien Manarino ?
Dis-moi tout.
Les 25 derniers matchs de Manarino sur terre en ATP 500, 1000 ou Grand Chelem se sont soldés par une défaite. Il est en 0,25 sur ses 25
C'est bien, la stat est correcte, hein, c'est beau.
Non, mais on vanne Adrien, mais c'est vrai que la terre battue n'a jamais été sa prédilection. Mais malgré tout, il est encore top 50.
Oui, c'est ça, voilà. Il est toujours là.
Il est toujours là, top 50, inusable, notre divin chauve. Et on est qu'au début de la tournée sur terre, mais on a quand même un peu de mal à voir qui pourrait performer sur la surface, à part Arthur Fils, peut-être Corentin Moutet, mais à part ça, sinon, c'est quand même, ça paraît quand même assez difficile.
Ouais, même Humbert, il est pas...
Humbert sur terre, ça n'a jamais été le grand amour.
Non, je cherche, mais... Ouais, Arthur Fils, on va tout miser
Arthur
sur lui.
Arthur Fils, pense, voilà, hein. Et peut-être Moutet, on n'est jamais à l'abri d'un exploit avec notre Magic Coco et sa patte gauche magique. Et on va parler maintenant de quelques petites infos de la planète tennis ces derniers jours. Tu vas voir, Marine, on va prendre des nouvelles de grands copains à toi.
Ah, j'ai hâte.
Ce sont les brèves de comptoir.
Certaines infos sont importantes, il faut en débattre. Et d'autres, mais on peut en parler, quand même.
Du coup, on en parle ?
On en parle.
Allez, on en parle.
Allez.
Et pour cette première informationnette, on va rester donc à Monte-Carlo avec les mauvaises fortunes de certains grands noms du circuit, tout de même des grands noms. Alors, tu veux commencer par qui, Marine ? Medvedev ou Tsitsipas ?
Bon, alors t'as dit grand nom, on va dire Medvedev quand même.
Oh, allez, quand même. Medvedev, bon, on le sait, c'est pas un bon client de la terre battue.
Ah ouais, c'est fou quand même.
Il aime pas ça, que voulez-vous ? Il aime pas, hein, on peut pas le forcer. Alors parfois quand même, il se force. Et ça donne, j'en perds mon stylo, voyez-vous, et ça donne Rome 2023, tournoi révélateur hein, des formes de chacun avant Roland-Garros, quand même, le Masters 1000 de Rome. Et en 2023, bah, il avait gagné Rome. Donc c'est, quand c'est... il veut, ouais. Bah, ça peut le faire.
Ça mais là, l'espoir.
C'est, voilà, les espoirs sont permis quand même.
Ouais.
Mais là, Monte-Carlo, il voulait pas.
Ah ouais, non, là, c'était.
Défaite pour son entrée en lice face à Matteo Berrettini dans un match très serré. Un vrai mano à mano. Une opposition de style entre l'offensif italien et le métronome russe. Score final. 6-0, 6-0 pour Berrettini en 50 minutes. Ça arrive même au meilleur. Écoutez, que voulez-vous hein. C'est seulement la troisième fois depuis la création de l'ATP Tour en 1990 qu'un joueur du top 10 rentre à vélo après son match. Comprenez, il prend deux bulles.
Et vous, il voulait raffermer la stat un peu.
Je pense qu'il voulait rafraîchir un peu le truc. Quoi, mais,
bon, sachant qu'en plus, Berrettini sort de blessure sur blessure sur blessure. Oui. Alors, c'était pas non plus le joueur le plus à craindre.
Non, c'est clair. Il avait fait first à Bucarest juste avant. Donc, c'était pas non plus l'ogre.
C'est vrai que la double bulle, elle est quand même vachement inattendue.
Ouais, c'était un four, mais total, quoi. On a parlé de la raquette avec Arnaud tout à l'heure.
Oui, justement. Elle a eu mal, la raquette. Hein.
Trouvais ça absolument génial avec le public de Monte-Carlo qui est allé de ses. Oh, là, à chaque fois qui refrappait sa raquette
d'habitude,
par terre.
D'habitude, ça a eu sa boue et tout. Et là,
c'était. Ouais, moi, vraiment, j'ai trouvé ça très, très plaisant de la part du public de Monte-Carlo. Bravo, public de Monte-Carlo.
Bravo.
Ils ne nous écoutent pas, mais je les applaudis quand même. Non, franchement, ouais, c'était compliqué là, pour David.
Bah ouais, puis en plus, du coup, quand tu le vois réagir comme ça, tu te dis qu'il l'a pas fait exprès.
Bah non, ça
c'est
paraît.
C'est qu'il a essayé.
Il a essayé quand
je
même.
Je sais pas comment il a essayé.
Bon, ouais.
J'avoue que j'ai pas regardé le match. J'ai regardé les highlights un peu.
T'as regardé le fracassage de raquette, quoi.
Ouais, voilà, en gros, c'est ça. J'ai vu le début, la balle de match et la raquette. Voilà.
Ouais, non, j'ai regardé un petit peu. Et c'est vrai que oui, le score en témoigne. Hein. Il n'y a pas eu de match. Ça. Mais pourtant, Berrettini n'a pas non plus été divin. Sur le terrain, preuve en est, le tour d'après contre Fonseca, certains bons joueurs, hein, Joao Fonseca qui fait un bon tournoi, il a pris 6-3, 6-2, très sec hein, comme défaite. Donc bon, ouais, pas vraiment de justification pour Dani Medvedev qui a flopé complètement. C'est une tôle en bonne et due forme, mais ça nous a au moins permis de faire une petite brève.
Bien sûr.
Voilà. Tsitsipas.
Ah, mon autre grand ami.
Bah, il poursuit sa chute hein, au classement.
Combien là ? Top 60, non ?
J'y arrive. Le grec, pourtant triple vainqueur à Monte-Carlo, quand même.
C'est bien
tombé.
De rappeler, t'as raison.
Bah oui, non, mais quand même, parce que c'est pas si vieux que ça non plus.
Oui, puis en plus, la terre battue, c'est sa surface.
C'est sa surface, théoriquement. Il est tombé d'entrée hein, face à Cirundolo. 7-5-6-4, un score vraiment pas révélateur de la rencontre. En plus, je sais pas si tu as regardé.
Non, pas du tout.
Pour le coup, j'ai regardé.
Ah ouais.
Cirundolo fait n'importe quoi dans le deuxième set. Hein, il mène 5-0 ou 5-1.
Oh,
et il laisse revenir. Il mène 4-0, pardon. Tsitsipas revient à 4 partout, évidemment, hyper 6-4.
Oh.
Et donc, au classement, Tsitsipas sera au mieux 65e mondial lundi. Au mieux 65e, c'est compliqué.
Ah bah là.
Ouais, là c'est quand même assez terrible. 65e mondial, donc au mieux pour Stefanos Tsitsipas. Bon, on ne sait pas où va s'arrêter cette chute libre, mais ça commence à être éternel quand même.
Hein. J'irai dresser dans le top 100 avant la fin de l'année.
Mais
quoi.
On rigole, mais c'est une question qui va finir par se poser à ce rythme-là.
Bah parce que là, il a beaucoup de points à défendre ou pas ?
Non, parce que sa saison 2024 est déjà.
Était déjà
2025, pardon.
Ouais.
Était déjà pas très bonne, quoi. Donc si, il y a quelques points à défendre par-ci par-là, mais sinon, oui, c'est vrai que ça va.
C'est quand qu'il chope les classements pour Roland-Garros ?
Le cut de Roland-Garros, c'est un peu avant Rome, il me semble, ou au début de Rome.
Oui, bon, il peut pas
donc,
chuter autant.
Non, il sera quand même dans le tableau direct pour Roland,
limite,
mais
quoi.
Bon, il sera largement pas tête de série, ça c'est sûr.
Bon, c'est surtout qu'il va pouvoir se prendre un Alcaraz ou un Sinner dès le début, quoi.
Son premier tour va pas être cadeau du tout à Stefanos.
Tu me diras si un Cirundolo, il a du mal.
Oui,
pas besoin d'aller taper dans le top 5.
C'est clair. C'est clair. Et pour finir cette grande page, Monte-Carlo, un autre grand nom, continue de dégringoler au classement. C'est Grigor Dimitrov. Le Bulgare, ex-troisième mondial, hein, quand même, va quitter le top 100, lui, pour le coup, lundi. Après sa défaite au premier tour contre Etcheverry, on en parlait tout à l'heure. Et c'est la fin d'une série complètement dingue, quand même, pour Dimitrov. Rappelons-le, 710 semaines consécutives passées dans le top 100.
Punaise.
Et ouais, vache. 710 semaines consécutives dans le top 100. C'était le deuxième joueur actuel encore sur le circuit à avoir la deuxième plus longue série en cours derrière Djokovic, évidemment.
Oui, bien sûr.
Il était entré dans le top 100 le 1er avril 2012 et il n'en était jamais
ressorti. Comment ça faire ?
Depuis. C'est compliqué hein, pour lui qui prend de l'âge. Même s'il n'a entre guillemets que 34 ans, mais bon.
Ouais, et puis blessure encore. Hein.
Ouais, physiquement compliqué. Ouais. On se rappelle évidemment de son match à Wimbledon, c'était son 8e ou son quart contre Sinner. Il met 2-7-0 et il se blesse.
Horrible.
Peut-être la fin de sa carrière en vrai.
Peut-être le plus grand tournant de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé ?
Le plus grand motif de tous les temps. N'ayons pas peur des mots.
Ah, mais ouais. Non, c'est clair. Bah, c'est un peu plus dommage. J'avoue que Dimitrov, en plus, c'est un joueur qui est vraiment attachant.
Ah, bah, qui est beau avoir joué.
Ouais.
Puis, on imagine que Richard pleure là en entendant ça.
Bah, alors, même si Titi passe un revers à une main, bon.
Qui pleure encore pour Stefanos en 2026 si, en vrai,
il pleure sincèrement, franchement.
J'abuse.
Lui, je pense qu'il pleure sincèrement tous les soirs. Ouais. Mais c'est vrai que Dimitrov, ça paraît compliqué là quand même. Hein.
Ouais, compliqué.
Ça sent peut-être pas la fin de carrière, mais. Pas pour cette année. Mais
ça s'en rapproche quand même.
Peut-être
hein.
L'année prochaine, quoi.
Ouais.
C'est triste, mais bon, après, il y a des fins partout.
Bah, c'est comme ça.
Il aura fait quand même un bon parcours. Une belle petite remontada.
Belle carrière. Très belle carrière.
En fin de parcours, si on parle de fin de parcours là maintenant. Mais non, il a fait une belle saison l'année dernière, donc il partirait sur une bonne fin, on va dire.
Oui, puis c'est un joueur qui a marqué quand même son époque, mine de rien, avec un titre Masters en 2017.
Et puis il est sorti avec Sharapova, français.
Les gossips, toujours. Évidemment.
Je rigole, bien sûr.
Non, mais c'est vrai que ça sent peut-être quand même un peu la fin de carrière pour Dimitrov.
Ça sent le pneu crevé, ouais.
Comme tu dis si bien.
Ça sent le pneu crevé.
Transition parfaite, la fin de carrière peut-être, pour la deuxième petite brève de comptoir, puisqu'on va encore une fois parler des retraités. Les annonces s'enchaînent hein, depuis plusieurs mois. Vous comprenez donc que Richard avait besoin de souffler. Hein, c'est certainement pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Ça devenait trop pour lui. Il avait besoin de prendre un break. Bon, on le comprend. Depuis la dernière émission, on a d'abord eu David Goffin, ouais. Qui a annoncé ranger les raquettes. À 35 ans, le Belge arrêtera en fin d'année 2026 après 17 ans de carrière professionnelle. 6 titres ATP et un pic au 7e rang mondial pour celui qui aura battu quand même dans sa carrière Nadal, Federer, Djoko, Del Potro, Wawrinka, Tim Alcaraz.
Ça va.
Joli tableau de chasse.
C'est pas
franchement.
Vrai. Ça se défend.
Franchement, ça se défend. Donc voilà, David Goffin. Profitons de David Goffin encore quelques mois sur le circuit pro. Mais surtout, l'affaire People qui a agité la planète tout entière, hein, au-delà de la sphère tennis depuis 15 jours, c'est la vraie fausse retraite du chouchou de notre Richie national. C'est Kei Nishikori. Ben oui, non mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le japonais, aujourd'hui 417e au classement PIF, il était engagé cette semaine au Challenger de Sarasota, c'est aux États-Unis. Et samedi 4 avril, bon, journée banale hein, au premier abord, Vlatipak, les organisateurs du tournoi, annoncent que ce sera le dernier tournoi de Kei Nishikori.
Oh
alors
Dieu.
Là, on est tous sciés, complètement sciés, immédiatement, on branle bas de combat hein, au sein de la rédaction de Plein de Mal, on interrompt toutes et tous nos activités pour prendre des nouvelles du Richard. Allô Richie, comment ça va là ? On s'inquiète pour toi, t'as la tête qui tourne ? Assieds-toi, prends un bon verre d'eau, allume la télé, change-toi les idées, et là bim, un match de l'OM. Ah non, pas l'OM ! Bon bref, mais finalement, un deuxième coup de théâtre, quelques minutes plus tard, l'agent de Nishikori, puis Nishikori lui-même, démentiront l'information.
Ah.
Ouf ! Notre Richie est sauvé. Non mais histoire de fou quand même. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires des organisateurs de tournois qui annoncent la retraite des joueurs avant les Jeux.
Ouais,
qu'est-ce que c'est que ces conneries.
Qui
je, bah,
il y a un stagiaire qui va se faire virer.
Ouais, je pense qu'il y a un truc qui va, il y a un truc qui va se passer là. À Sarasota en Floride, il va se passer des choses. Bah, enfin, je tiendrai quand même à rappeler que Nishikori a démenti en disant qu'il ferait une annonce précise à ce sujet, au sujet de sa retraite, dans quelques semaines.
Ah,
donc,
oui.
Bon, est-ce que c'est reculé pour mieux
donc,
sauter ?
Donc, en fait, c'est l'organisateur qui avait l'info, il a balancé l'info sans savoir qu'il fallait pas le dire maintenant. Et Nishikori, il a râlé.
Il a râlé.
C'est possible.
Mais en vrai, ça peut se comprendre, mais enfin, en tout cas, voilà, petite histoire rigolote de la vraie fausse retraite de Kei Nishikori.
Un petit peu folklorique.
Et évidemment, Richard, vous imaginez bien les messages en majuscules qu'il nous a envoyés la semaine dernière.
Pour... Ah, c'était pour ça,
c'était
j'avais
pour
pas
ça,
compris,
ouais.
Moi,
ouais.
Tellement de.
C'est ça, les 14 appels manqués
okay,
sur ton téléphone
bon,
samedi 4 avril.
Je vais le rappeler tout à l'heure.
Non, il prend pas sa retraite, tu n'as pas besoin.
Ah,
donc ça va. Puis il est parti, là, donc il ne te répondra pas. Je crois qu'il a débranché le tennis complètement de son esprit. That's good stuff. All out of tech from Federer.
Et juste avant donc de boucler l'émission sur nos pronos, un mot des derniers résultats féminins. On va évoquer le tournoi de Linz justement pendant les pronos dans quelques instants. Mais cette semaine, c'était l'occasion de retrouver la Billie Jean King Cup, les grands débuts de cette équipe de France sous la houlette d'Alizé Cornet, capitaine des Bleus depuis l'automne dernier. La mission de la Niçoise est assez simple, faire remonter la France dans l'élite mondiale après la descente en deuxième division connue en 2024. Et oui, la France est en deuxième division. Depuis 2024, pour cela, les tricolores donc sont emmenés par Elsa Jacquemot, puisque Loïs Boisson est toujours absente, et Varvara Grachevas donc c'est gravement blessé, hein, oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Et les Françaises ont logiquement battu donc dans leur phase de poule trois équipes à leur portée, la Lettonie sans Stapenko, la Roumanie sans Sirstea, Christiane et Rouzeux, et la Norvège. Donc bon, la logique était respectée, même si les Bleus se sont fait peur contre la Roumanie. La France disputait donc une première finale de cette phase de poule cet après-midi même, là, contre la Hongrie, et malheureusement, c'est une défaite. Léolia Jean-Jean et Elsa Jacquemot se sont inclinés respectivement dans leur simple. Donc voilà, première occasion ratée pour les Françaises donc de disputer le barrage d'accession à l'automne prochain, puisque voilà, la nation gagnante composte son ticket donc directement pour ce barrage, qui permettra peut-être de remonter dans l'élite mondiale. Les Bleus qui auront une deuxième chance dès demain pour composter leur ticket pour ce barrage d'accession. Ce sera soit contre la Suède, soit contre la Serbie, en fonction de qui va perdre l'autre barrage également, en fonction des perdants et des gagnants, qui va être reversé contre la France. On ne le sait pas encore. Suspense. À 7h. Mais bon, ce serait bien quand même que nos Françaises arrivent au moins à aller au barrage d'accession.
Bah ouais.
Après,
si
le flop,
l'idée c'est de les faire remonter un petit peu sur le top mondial.
Puis après, voilà, après le flop de l'an dernier contre la Lituanie, on s'en rappelle, une défaite pas vraiment glorieuse, on en avait parlé dans cette émission. Bon, ce serait quand même bien au moins voilà, de voir la couleur du barrage, au moins pour se donner une chance.
Au moins espérer. De loin quoi.
Même si, bon, bah après, voilà, les joueurs sont blessés, ça peut arriver, malheureusement, on arrivera peut-être pas forcément.
Oui, c'est sûr que c'est pas la meilleure
armes.
Équipe possible, mais après, Elsa Jacquemot, elle est censée être quand même un peu la meneuse française en l'absence de Loïs Boisson.
Tout à fait.
Ça reste quand même. C'est la deuxième, c'est la top 2, non?
Elle est top 3 au classement, elle est juste derrière Grachevas.
Grachevas devant,
mais bon, bah là, évidemment, les classements vont s'inverser. Mais malheureusement, c'est vrai que Jacquemot n'a pas fait un grand match cet après-midi contre Bondard, je crois qu'elle jouait contre Anna Bondard.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et une défaite en 2-7, alors qu'elle a servi pour le 7 dans la deuxième manche. Bon, ça arrive.
C'est tennis,
mais,
hein.
Voilà, ça arrive à tout le monde, mais force est de constater que c'est une défaite. Et la France va devoir gagner son barrage demain contre la Suède ou la Serbie. Et donc maintenant, pour finir cette émission, je les ai annoncés, c'est l'heure des pronos. Et oui, les pronos, pour finir cette émission, une fois n'est pas coutume, on va terminer l'émission sur nos pronos en feu d'artifice, hein, étant donné que nous avons des dons de voyance absolument indéniables. On l'a déjà prouvé par le passé.
Un sans faute. Hein.
Un sans faute.
À chaque fois.
À chaque fois. Et on va une nouvelle fois le prouver ce
Bien
soir.
Sûr.
Avec donc deux tournois à pronostiquer. Donc Monte Carlo, mais ça, ce sera le deuxième. On va commencer par le tournoi féminin, un WTA 500 en Autriche, à Linz, sur terre battue également. On a donc là actuellement le tableau sous les yeux. Marine, je te laisse te lancer dans tes premiers
petite coupure info en direct.
Bien,
attention.
Breaking news.
Alex Desmineurs a gagné le deuxième set 6-3.
Aïe.
Ça change un petit peu les pronoms.
Coup dur pour Valentin Vacherouf.
Nous en revenons au tennis féminin. Alors l'Open de le tournoi de Linz.
Le Upper Austria Ladies Linz.
tu m'ôtes les mots de la bouche.
Évidemment.
Bon, il y a pas grand monde hein, en soi.
Il y a quelques, il y a une membre du top 10, Mira Andreeva.
Il y a Mira Andreeva, ouais. Alexandrova, non, elle est plus elle est juste derrière.
Et ouais, et elle est sortie.
Elle est, tège,
elle est sortie d'entrée.
Bah, j'ai pas trop envie de me mouiller, je t'avoue que c'est un peu compliqué de dire quelqu'un d'autre que Andreeva. Pourquoi pas Ostapenko? Mais vu que j'aime pas Ostapenko, je vais dire Andreeva.
Ouais. C'est pas compliqué.
Et on se demande pourquoi j'aime pas Ostapenko.
Dis-nous pourquoi.
Bah peut-être parce qu'elle mène, je crois que c'est 6-0 contre Swiatek, les rencontres.
Ah oui, c'est vrai que c'est la bête noire de
Swiatek. C'est peut-être 7.
Effectivement.
Je ne l'aime pas, voilà.
Oui, effectivement, c'est la bête noire de Swiatek. Et ben, j'ai le plaisir de t'annoncer que ce ne sera pas Ostapenko qui gagnera le tournoi puisqu'elle a perdu.
C'est vrai.
À son quart de finale contre Rouzeux. Là, je le regarde en direct, en live. Elle a perdu cet après-midi en 3-7 contre Rouzeux. Et de l'autre côté.
Je suis déçu,
vraiment. Et de l'autre côté, Mira Andreeva s'est également qualifiée pour les demi-finales en venant à bout de la Roumaine Sorana Sirstea. Eh bien, moi, je vais parer, j'ai envie de croire à une petite surprise, en vrai, dans ce tournoi. J'ai envie de croire à la surprise Lily Tagger.
Ah oui.
Ouais, alors la grosse surprise, hein, wildcard, pour ceux qui ont, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ce qui se passe à Linz avec Lily Tagger, wildcard autrichienne, une jeune joueuse de 18 ans, une petite pépite autrichienne au-delà du top 100. Lily Tagger qui a éliminé une autre wildcard, et quelle wildcard quand même au premier tour, Paola Badosa.
Mais bon, qui n'est plus.
Qui n'a plus sa gloire.
C'est plus la Paula qu'on connaissait.
Évidemment, mais quand même, belle victoire en 2-7. Et Tagger ensuite qui s'est payé le luxe de sortir la tête de série numéro 3 quand même, Ludmila Samsonova, pareil en 2-7. Également. Donc là, elle est actuellement opposée à Potapova. On est dans le premier set, ça fait 6-5 pour elle d'ailleurs. Mais j'y crois. Allez, j'ai envie de croire à la belle histoire Tagger à domicile en finale contre Mira Andreeva. Quand même, j'ai envie de croire aussi que Andreeva va enfin sortir la tête de l'eau là, de cette passe un peu compliquée.
Ah, j'espère, ce serait pas mal pour elle.
Ce serait quand même cool.
Ouais, pareil.
Là, à l'approche de Roland, ce serait quand même pas mal pour elle. Donc voilà, une finale Andreeva-Tagger et je vais mettre Lily Tagger vainqueur. Allez, on y va.
Allez,
j'ai envie d'y croire à la belle histoire. C'est des premiers tournois sur terre battue, il faut que chacune reprenne le rythme. Donc Lily Tagger vainqueur et donc toi Mira Andreeva.
Mira Andreeva contre moi je parierais plus sur un Potapova, tu vois.
Potapova
qui joue pas mal.
Oui,
et ben une autre autrichienne, tu vois, donc en vrai.
Oui, c'est vrai qu'elle a pris la nationalité autrichienne depuis quelque temps.
Non, mais quand même Andreeva, je pense.
Donc Andreeva pour
ça
toi.
Ça me paraît le plus sûr.
Ok. Donc ça, c'était pour le tournoi de Linz en Autriche. Et donc, on va revenir une dernière fois sur Monte-Carlo. On est donc là en cours du dernier quart de finale, on le disait actuellement. Valentin Vacherot, Alex de Minaur qui sont dans le troisième set. Il y a 1-0 pour Dominor au moment où je parle, mais vous vous en foutez puisque vous écoutez ça après. Donc ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. On a donc pour les trois autres quarts de finale quand même Alcaraz donc, qui s'est imposé contre Bublik, Zverev et Sinner en bas. Donc on a Zverev, Sinner et Alcaraz contre Vacherot ou Dominor.
Zverev, Sinner, c'est dur, hein, on se demande quand même. Hein. Moi, j'avoue, j'hésite.
Je vois ton visage empreint d'hésitation. Oh, dis donc.
Bon, est-ce que j'ai envie de croire à un Zverev sur terre battue qui est fou furieux? Oui.
Oui.
Est-ce que j'y crois vraiment?
Non.
Non. Mais je l'espère sincèrement, franchement. Ça me ferait plaisir de voir Zverev qui enfin tient son rang, quoi.
J'ai l'impression que c'est pas honnête.
Bah non. Bah non,
c'est
évidemment, évidemment que c'est Sinner qui va passer. J'hésite même si ça sera en 3-7, tu vois. Donc,
oui, ouais.
Pour moi, Sinner en 2-7 en bas. Et alors, j'ai envie de croire, j'ai vraiment envie de croire en Vacherot, qui passe des mineurs déjà. Et bon, après, Alcaraz-Vacherot, il sera quand même bien usé, notre petit Valentin. Hein.
Là, ça va
en
faire
plus,
beaucoup,
sachant que je crois qu'il joue en double, non, avec Arthur à côté.
Enfin, demander à Simon, l'expert du double, mais il n'est pas avec nous ce soir.
Je crois que c'est ça que j'avais
meublé.
Vu,
oui,
les petites vidéos de eux qui jouent ensemble, trop mignon.
Non, il n'est plus en lice.
Ah bon, bah,
il n'est plus
ça.
En lice, notre cher Valentin Vacheron en double.
Bon, bah, comme donc, ça, il peut se concentrer sur les simples.
Il est frais, Pas sûr.
Frais comme, comme on peut penser. Alcaraz Vacheron. Bon, déjà, on va dire Alcaraz Vacheron, et je pense malheureusement qu'Alcaraz va passer. Une finale.
Un Sincaraz.
Ouais, hein, classique.
Ouais, bah oui.
Et puis bah, j'ai envie de dire Alcaraz quand même, qu'il revienne un petit peu. Il nous a fait son. Comment dire? Son spectacle face à Korda.
Ah oui, à Miami.
À Miami, voilà, la petite surprise, voilà. Il a dit oui, non, mais j'ai besoin de prendre du temps pour moi, voir ma famille, tout ça. Ok, il est revenu, il avait l'air d'être en pleine forme avec son petit mulet qui grandit de jour en jour. Donc j'y crois. Je me dis, c'est une bonne victoire pour se remettre en jambe avant les gros tournois dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense Alcaraz Sinner et je pense qu'Alcaraz va passer. Peut-être même en 2-7, genre 7-6, tu vois.
Un truc bien serré, quoi.
Ouais.
Alcaraz pour toi.
Ouais.
Je te rejoins malheureusement.
Original,
enfin, malheureusement. Non, pour une fois, on va rebondir sur un prono. Alcaraz Sinner aussi en finale pour moi. Je vois pas Zverev du tout sortir Sinner, surtout au vu de son match contre Fonseca tout à l'heure. Bon, un très 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 beau match, hein, très accroché. Mais Zverev très très loin encore une fois d'être aérien dans le deuxième set, très très loin d'être serein. Mm. Une grosse passe dans le milieu du deuxième où il était vraiment amorphe et où vraiment Fonseca a pris le dessus largement sur Zverev.
Du grand Zverev, quoi.
Ouais, bon, après, il a quand même réussi à l'expérience à passer. Ça avait tout d'un match piège.
Ouais.
Il est quand même passé. Mais bon, je ne vois pas Sinner perdre, en fait, contre Zverev. Et Alcaraz, me semble, encore
trop au-dessus des autres sur terre battue. Alors c'est le premier tournoi, certes, mais je pense que ça va faire la différence et qu'Alcaraz va remporter Monte Carlo, conserver son titre sur le rocher.
Eh bah oui.
On verra dans 15 jours.
Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, la finale, c'est ce week-end.
La finale, c'est dimanche, effectivement.
On verra bien. Mais bon, pas de surprise, hein, honnêtement.
Ça semble.
Et
ouais.
après on pourquoi pas. Un petit miracle Vacherot, en sûr. Vrai.
C'est vrai que Vacherot, ça peut être notre étincelle.
Incroyable. C'est beau de rêver, hein.
Eh bien, rêve ou réalité.
Rêvons. Allez, Vacherot. Allez, Vacherot.
Allez, Vacherot. Eh bien, c'est parti pour toi, Vacherot. Moi, je reste sur Alcaraz quand même.
Oui, bah oui.
Mais on verra qui de nous deux a raison. Et sur ce sont sur ces belles paroles, je vais y arriver, que nous allons clôturer cette émission, ce nouveau numéro de Pleine Balle. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez
assez,
pas à nous.
Assez silencieuse hein, cette émission, bizarrement.
Mais oui, bah oui. Ouais. Finalement, quand il n'y a pas les deux énergumènes, on s'entend mieux. Hein, c'est beaucoup plus
agréable.
Beaucoup plus apaisant en studio, non, évidemment.
Non,
il nous manque,
bien sûr.
Et on espère les retrouver tous les deux dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera quoi le programme? Ce sera le débrief de Monte Carlo, un petit peu de Barcelone et le débrief de Rouen aussi également, puisqu'on y sera, on vous l'a dit tout à l'heure. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, puisqu'il y aura des petits trucs qui arrivent dans les prochains jours. D'ici là, prenez soin de vous, bonne soirée.
Profitez
bonne
du soleil.
Si vous écoutez en journée, profitez du soleil et vive le tennis.
Ouais.
Bah ouais, franchement, vive
allez,
le tennis.
Allez, bisous.
Allez, bisous, bonne soirée.
Moi, vive le tennis.
Bah oui, vive le tennis.